RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Les 10 derniers kilomètres dans quelques instants, nous allons les vivre en intégralité sur RMC avec toute la Dream Team, puisque le peloton est en train de se rapprocher à grands pas désormais des deux hommes échappés depuis quasiment le départ de cette étape. Avant les 10 derniers kilomètres, nouveau détour par Wimbledon puisque Novak Djokovic est en difficulté, mais il peut être peut-être sauvé par l'appui Eric Salio parce qu'il pleut de l'autre côté de la Manche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un match absolument dramatique au moment où Novak Djokovic allait servir pour rester dans la partie car il est mené 6-5 dans le quatrième set. Il y a eu une averse et donc le court a été bâché immédiatement. Les deux joueurs ont quitté le court et envoyé Novak Djokovic pas en panique, mais en train d'agiter les bras pour demander à son coach Boris Becker de le rejoindre dans une petite salle donc qui se trouve dans les entrailles du cours numéro 1. Il est en grosse difficulté. Je rappelle que Sam Querrey mène 2-7-1, 7-6, 6-1, 3-6, 6-5 pour l'Américain dans le quatrième set. Et Djokovic donc qui va rentrer sur le cours, je sais pas quand, mais il devra absolument remporter ce jeu. Sinon, adieu le Grand Chelem calendaire, adieu la série de victoires en Grand Chelem. Donc suspense terrible ici.
Voilà, il a déjà le Djokoslam, mais là il voudrait remporter le véritable grand slam. Très bien Eric, tu nous rappelles évidemment dès que le jeu reprend à Wimbledon. Il est 16h55 et nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée de cette première étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Frédéric Adam, on va faire un top course évidemment, c'est l'heure. Hein.
Si vous le voulez.
Ouais, on y va, allez hop.
RMC, top course.
À 9 km de l'arrivée exactement, deux hommes sont en train de faire de la résistance à l'approche d'Utah Beach au lieu du débarquement de juin 1944. L'américain Alex Howes de l'équipe Cannondale et le normand manchois régional de l'étape qui est en train de rouler sur ses routes d'entraînement depuis maintenant près de 180 km à l'avant. C'est Anthony Delaplace, le normand donc de l'équipe Fortuneo Vital Concept. 8 km 800 de l'arrivée, c'est de l'attente de résister au retour d'un peloton qui les laisse mourir 20 secondes au dernier pointage à l'avant de ce peloton. Sans aucune surprise, les deux équipes belges, bleu et rouge, les Etix Quickstep de Marcel Kittel, le sprinter allemand, et les rouges tout court de Lotto Soudal, les coéquipiers du champion d'Allemagne Marcel Greipel, près du Utah Beach. André Greipel, pardon, oui. J'ai dit Marcel Kittel.
Marcel Greipel, t'as fait un
Marcel Greipel, c'est bien aussi.
C'est son grand-père.
Kittel Greipel à 8 km de l'arrivée. Le duel a déjà commencé, mais citons également Christophe Cavendish, De Gent Kolb, Sagan ou le français Brian Coquard. Il y en a des prétendants pour cette victoire d'étape qui se jouera à coup sûr cette fois au sprint massif. C'est sûr maintenant, Jérôme.
Ouais, c'est sûr, il va falloir aller chercher ces deux coureurs. Pour l'instant, on s'affole pas. On est là, on les laisse à 20 secondes. Les trains sont en place. Les trains ne sont pas lancés, mais sont sur les rails. D'un côté, là, l'Auto Soudal. De l'autre côté, l'équipe Etix Quickstep. Et au milieu, encore des coureurs, des équipes de classement généraux. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore lancé à vive allure. On est à 7 km 800 de l'arrivée. C'est encore le temps de se mettre en place puisqu'on le répète. Les deux hommes de tête sont partis depuis très longtemps ce matin. 19 secondes, vent dans le dos. Il n'y a aucun danger pour les sprinteurs. On se dirige tout droit vers un sprint massif.
Le sprint massif pour cette première étape du Tour de France. On rappelle, Cyril, que le vainqueur de l'étape décrochera le gros lot, puisque non seulement il aura le bouquet de vainqueur et également le bouquet du maillot jaune, puisque le premier vainqueur portera le maillot jaune demain au départ de la deuxième étape.
Oui, c'est l'avantage, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas avoir de prologue. C'est que le premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée se retrouve avec effectivement le maillot jaune, le maillot de leader, et ce qui est quand même une chose absolument extraordinaire. Et ben, j'espère que, pourquoi pas un Français, on ne sait jamais, on a beaucoup parlé de Coquart. Ça n'est pas celui qui fait figure de favori aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Et je voudrais revenir quand même à ce qui se passe là dans la course. Là, je me pose quand même des questions. On s'attendait à une étape un peu turbulente. On a eu un petit coup de bordure tout à l'heure, suffisamment longtemps d'ailleurs pour que Contador soit victime d'une chute. Et là, on est quand même à moins de 7 km de l'arrivée. Et on roule quoi? On roule à 45 km heure. Personne n'embraye en tête de peloton. Je suis quand même très très surpris de cette passivité. Même si on sait, on joue au chat à la souris, comme dirait Frédéric. Mais là, je trouve que c'est quand même un peu bizarre.
Ouais. Jérôme, tu es surpris aussi du manque de combativité du peloton?
Étrangement, le peloton sur les premières étapes du Tour nous donne toujours l'habitude, et pour l'avoir vécu de l'intérieur, ça roule souvent très très vite. Mais là, il n'y a pas un intérêt majeur à rouler très vite, puisque ils sont en place, les groupes, les équipes de sprinteurs sont déjà à l'avant de la course, on n'a pas besoin de frotter, on n'a pas besoin non plus que ça s'emballe, et les deux hommes de tête vont être repris gentiment, donc pas d'affolement, c'est pas étonnant finalement cette situation.
6 km de l'arrivée, deux hommes en tête avec 18 secondes d'avance sur un peloton toujours groupé. Il est loin d'être en file indienne ce peloton, mais il roule tout de même à près de 50 km/h. L'américain Alex Howes, natif du Colorado, coureur de la formation américaine Cannondale, et surtout celui qui sera décoré du titre le plus symbolique qui soit de combatif du jour. C'est Anthony Delaplace, le Normand, le Manchois, le régional de l'étape, qui porte le maillot de l'équipe bretonne Fortuneo. Ils sont en train d'en terminer avec leur belle aventure. Anthony Delaplace, qu'on écoutera tout à l'heure, sitôt la ligne d'arrivée franchie, ouais, pour sûr, parce qu'il a dû avoir des frissons toute la journée. Il reste un peu plus de 6 km à parcourir, mais vraiment, ils n'ont aucun espoir à nourrir, ces deux-là.
Il y en a un autre qui a peut-être des frissons maintenant que se rapproche l'arrivée de cette première étape et le sprint massif qui ne va pas tarder. C'est Brian Coquart, un garçon que tu connais bien, Jérôme. Il est du même pays que toi, qui est un peu son grand frère dans le vélo. Garçon très sympa, très ambitieux évidemment, qui n'a encore jamais remporté l'étape sur les routes du Tour. C'est aujourd'hui la plus belle chance de victoire d'étape au sprint française, évidemment, puisque on le rappelle, Nasser Bouhanni n'a pas pu prendre le départ forfait avant même le début de ce Tour de France. Brian Coquart, est-ce que tu le sens en capacité de remporter peut-être cette étape, en tous les cas une étape cette année sur les routes du Tour?
Oui, assurément. Brian, comme tu l'as dit, Christophe, est presque un membre de la famille. C'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est très jeune, qu'il est à l'école de cyclisme. Et cette année, Brian a passé un cap. Cette année, Brian a pris de l'ampleur. Il a beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts pour accéder à ce rêve de remporter une victoire d'étape.
Brian Coquart, qui vient de perdre un équipier à 5 km de l'arrivée. Angelo Tulik, son équipier de la formation Direct Energy, est allé au sol. Il reste 4 km 700 de l'arrivée. Les deux hommes de tête, Anthony Delaplace et Alex Howes, viennent de se serrer la main pour se dire au revoir. Ils réintègrent le peloton et le mano à mano entre les équipes Etix Quickstep et Lotto Soudal a commencé. Le peloton désormais de plus en plus étiré.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle, car Angelo Tulik fait partie du train, fait partie de la rampe de lancement de Brian. C'est en général l'avant-dernier lanceur et il est juste devant Adrien Petit, donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le train Direct Energy.
Et on avait repéré ce virage à gauche dans Sainte-Marie-du-Mont hier, Jérôme, avec la boucherie qui est juste en
Exactement.
Face. Et vraiment un virage.
Ils ne font pas de sandwich d'ailleurs.
Hein. Ah, non, ils ne font pas de sandwich. On vous rappelle, non, dans la boulangerie. Non,
plus, à la boulangerie.
Rien du tout. Pas de casse-dalle. Virage très serré qui était assez dangereux, évidemment.
On est arrivé vite dans ce virage. Et quelques coureurs sont allés à la faute, mais on l'a vu tout à l'heure avec cette vitesse qui n'est pas très élevée, le peloton n'est pas en ligne. C'est difficile pour les équipes de sprinteurs qui se retrouvent en deuxième, troisième rideau de remonter. On l'a vu essayer les coureurs de Direct Energy essayer de faire le forcing tout à l'heure sur la droite de la route et ça a bouché, ça a freiné devant et on est allé à la faute. Et là on voit maintenant que 3-4 coureurs qui entourent Brian Coquart sont un peu en retrait. On n'arrive pas à remonter à l'avant de la course pour l'équipe Direct Energy.
Mais ça a accéléré quand même, hein, Cyril, là, depuis quelques temps en tête de peloton, même si on n'est pas encore complètement...
On voit effectivement les équipiers de Coquart essayer de leur ramener dans le sillage de Cavendish, qui n'est pas la plus mauvaise roue, mais il vaut mieux être devant que derrière. Mais là, effectivement, comme le peloton est toujours pleine route, qu'il n'est pas étiré, eh bien c'est difficile de venir se replacer. Si le peloton est un peu plus étiré, avec un ou deux équipiers, on peut faire l'effort dans le vent pour revenir vous placer. Ça n'est pas le cas maintenant, alors qu'on vient de passer au panneau des 3 km. Panneau important pour les leaders, pour les favoris de ce Tour de France, puisque en cas de problème, eh bien, ils seraient classés dans le temps du vainqueur de l'étape.
Exactement. On a repéré un autre danger avec Fred et avec Jérôme. Ce sont évidemment les barrières qui vont entourer la route d'ici quelques instants, avec une route assez peu large finalement, Jérôme. Et puis ces pieds de barrières toujours aussi dangereux.
On a installé les barrières sur les bandes blanches qui bordent la route. Effectivement, effectivement, Christophe, ça crée un entonnoir quasiment, ce rétrécissement, cette mise en place des barrières. On va retrouver les barrières à 2 km, 1 km 500, 1 km 600 de l'arrivée. Et là, tout de suite, ça va devenir moins large, mais on est lancé à vive allure maintenant.
Fred.
2 km de l'arrivée avant le sprint massif ici à Utah Beach. Les Lotto Jumbo, la formation hollandaise, vient de prendre le commandement du peloton, relayé à l'instant par les Katusha du Norvégien Alexander Kristoff. Toujours les Lotto Soudal d'André Greipel et les Etix Quickstep de Marcel Kittel sont à l'avant. 1 km 500 de l'arrivée. On serre la vis côté coéquipier des sprinteurs. On serre la vis et on se frotte. Ça donne des coudes. Et bien voilà, première étape du Tour de France. Les coureurs sont nerveux. Il y a beaucoup à gagner. Boasson-Hagen emmène dans sa roue Bernard Teisel et Mark Cavendish chez Diamond Chain Data. Bientôt la flamme rouge. Les Lotto Soudal qui reprennent le commandement pour le gorille de Rodstock, le champion d'Allemagne, André Greipel, qui vise sa 11e victoire d'étape ici.
Dans quelques instants, la flamme rouge du dernier kilomètre. Les coureurs qui sont entrés sur la partie barriérée de cette fin d'étape. Là, l'allure s'est singulièrement accélérée avec évidemment les équipes de sprinteurs qui passent à l'instant même sur la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Les Katusha d'Alexander Kristoff ont pris le commandement, relayé à l'instant par les Lotto Soudal et les Etix Quickstep de Marcel Kittel. Kittel qui va essayer de faire parler la poudre, lui qui a déjà remporté 8 étapes sur le Tour de France, le jeune allemand. Les Diamond Chain Data de Mark Cavendish sont là également. Les Lotto Soudal d'André Greipel, le gratin du sprint mondial avec une chute d'un Katusha qui met probablement hors jeu pas mal de coureurs. Alexander Kristoff est toujours là. Ce sont les Lotto Soudal qui lancent le sprint à 300 mètres de l'arrivée maintenant. Les Lotto Soudal qui emmènent le champion d'Allemagne, André Greipel. Peter Sagan, le champion du monde, a pris le commandement. Sagan qui est en train de revenir à ses premières amours sur le sprint. Il est débordé par Marcel Kittel, mais surtout par Mark Cavendish, le Britannique, qui va aller remporter sa 27e étape sur le Tour de France. Victoire ici à Utah Beach, en face de l'Angleterre et pas très loin de son île de Man, de Mark Cavendish, le poli britannique qu'on disait enterré, qu'on disait terminé, qu'on disait fini pour le sprint mondial et qui vient devancer Marcel Kittel ici. Cet homme est increvable, il se rapproche à une longueur du chiffre de Bernard Hinault. Hinault, 28 victoires d'étape. Cavendish, 27. Quel spectacle une nouvelle fois. Cet homme est incroyable.
Incroyable, Mark Cavendish. C'est vrai que personne ne l'avait annoncé dans les paris. On pensait qu'il était fini, Mark Cavendish, qui a été ton coéquipier pendant quelques saisons, Jérôme, et qui est un drôle de bonhomme, un drôle de champion. Hein.
Un grand champion déjà, ça tu l'as dit, Christophe. C'est un très grand champion qui s'impose aujourd'hui.
Pierre-Yves Leroux, justement, est aux côtés de Mark Cavendish. Pierre-Yves.
Pour vous décrire la photo là derrière, la joie de Mark Cavendish, incroyable, et de ses coéquipiers qui se jettent dans les bras. Un sourire vraiment large comme tout le visage pour Mark Cavendish, l'homme de l'île de Man, qui est en train de chercher ses partenaires les mains sur la tête, sur le casque. Il est vraiment surpris par cette victoire. On vient l'embrasser, il y a tous les photographes autour de lui, tous les caméramans également. Il y a une grande vague là, il va être emmené vers le podium et tout le monde, tous ses assistants qui viennent lui plonger, lui sauter dans les bras. Vraiment c'est sympa de voir la joie de Mark Cavendish actuellement derrière la ligne, avec les coureurs qui arrivent de chaque côté désormais. Et on va faire attention parce que il y a beaucoup de monde au milieu de la route. Fabien Conchellara, pas très loin.
Très bien. Jérôme, tu reviens donc sur Mark Cavendish, un grand, grand, grand champion. Il est plutôt jeune, mais il est encore véloce, l'animal.
Il est là, et moi, je suis très, très heureux pour lui parce que rappelez-vous, il y a 2 années, départ du Tour de France en Angleterre, l'étape passait devant chez lui. Il était promis à son premier maillot jaune. C'est pour la première fois aujourd'hui,
oui,
Mark Cavendish
exactement.
Va endosser le maillot jaune. Il devait gagner là-bas. C'était écrit. Il n'a pas pris le maillot jaune. Il a chuté à l'arrivée de la première étape en Angleterre. Et bien aujourd'hui, il remet les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, Marc va endosser son premier maillot jaune, mais surtout 27e victoire d'étape sur le Tour de France. Chapeau, Mister Cavendish.
Voilà, Cyril, on peut dire aussi un bon comportement des Français dans ce sprint, hein, puisque la porte de l'équipe Cofidis prend la 6e place. Coquard, lui, se classe 7e dans ce final où il n'était pas les coureurs les mieux lotis au niveau du train. C'est une belle performance française.
Mark Cavendish qui ressurgit, le Cap sur Bif, 31 ans, Mark Cavendish qui remporte, on vous le rappelle, son 27e succès sur une étape du Tour de France, lui qui avait été, on vous le rappelle, champion du monde en 2011. Il avait signé chez Sky, puis chez Etix Quickstep, où il t'avait côtoyé, Jérôme. Il a cet hiver fait le choix de l'Afrique du Sud en rejoignant cette formation Dimension Data ex MTN Kubeka, qui avait découvert le Tour de France l'an passé, notamment avec son érythréen Daniel Tekleïmanot. Et bien là, l'équipe Dimension Data a franchi un palier, elle qui compte déjà dans ses rangs des coureurs comme Edvald Boasson-Hagen, comme Stephen Cummings. Ils ont mis la main sur Cavendish cet hiver et ils ne le regrettent pas. Un Cavendish, deux Kittel, trois Sagan ici à Utah Beach.
Et Greipel qui prend, il me semble, la quatrième place de cette étape. Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves, il y a eu une grosse chute intervenue lors de l'emballage final. J'imagine que tu dois voir arriver quelques éclopés après le vainqueur. Hein. Quelques garçons
bien abîmés.
Alberto Contador. Alberto Contador.
It's okay.
Alberto Contador qui vient de répondre. C'est un peu évidemment animé, vous l'imaginez. Les coureurs qui passent effectivement derrière pour l'instant, pas trop de problèmes. On va essayer de voir si un coureur veut s'arrêter, mais évidemment c'est agité, vous l'imaginez. Je reviens vers vous dans un instant.
Très bien, reprends ton souffle mon Pierre-Yves. Là il s'est fait son petit sprint, son 400 mètres habituel des arrivées d'étape. Oui, on rappelle l'information du jour, Fred, la chute d'Alberto Contador, mais il n'est pas le seul à avoir chuté, puisque on le rappelle, seulement une grosse dizaine de coureurs en ont terminé là. Cyril, est-ce que tu vois des garçons arrivés? Non,
Cyril vient de nous dire qu'il redescendait.
J'ai pas entendu. Fred, est-ce qu'on a des nouvelles des garçons qui ont chuté? Parce que grosse chute sur le côté droit de la route, avec un coureur qui s'est vu embarquer vers les barrières, qui a tapé vers les barrières, et derrière lui de gros dégâts, parce que tout le monde est venu s'encastrer dans ce coureur qui a chuté lourdement à l'arrivée.
Oui, c'est un coéquipier d'Alexander Kristoff au sein de la formation russe Katyusha, qui a tapé une barrière. On évoquait le danger de ces barrières.
Je te coupe car Pierre-Yves Leroux est en compagnie du champion de France Arthur Vichot.
Arthur Vichot qui rejoint tranquillement son bus. Arthur, c'était très animé là encore cette fin d'étape. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé peut-être devant vous sur la chute?
Un peu à l'image de toute la journée, quand on longe la mer et qu'il y a du vent. Voilà, une première étape du tour, c'est propice au stress, aux cassures, aux chutes. Bon, il n'y a pas eu énormément de chutes aujourd'hui, heureusement, à part celle survenue dans le final. Bon, j'ai pas vu ce qui se passait, j'étais un petit peu plus loin. Mais bon, c'est le lot de toutes les premières étapes du Tour, hein, c'est comme ça.
C'est ce que craignait d'ailleurs Thibaut Pinot, votre leader. Les premières étapes, il faut faire très attention, être très attentif. Ça s'est bien passé pour lui aujourd'hui?
Oui, ça s'est bien passé, mais je pense que c'est tous les leaders qui sont inquiets au départ d'une étape de ce style-là. Je pense que tout le monde a un petit peu la boule au ventre quand on joue le général sur un parcours comme aujourd'hui.
Demain, un peu le même type d'étape, l'arrivée un peu plus compliquée peut-être?
Voilà, demain c'est un peu le même scénario, sauf que ça jouera plus à la pédale avec une arrivée en côte. Et j'espère que la météo sera aussi bonne avec du soleil, ça serait pas mal.
Merci Arthur, avec son maillot de champion de France. Et on vient de voir un ou deux coureurs comme Jan Backlands qui passe à côté de moi avec le dossard, enfin le maillot complètement déchiré, et qui n'a plus son vélo d'ailleurs, qui rentre à pied là, à côté des autres coureurs, qui rejoint son bus. Donc effectivement des images assez surprenantes derrière la ligne.
Et oui, évidemment. Merci Pierre-Yves pour cette carte postale en direct de la ligne d'arrivée. On rappelle, Fred, donc la victoire de Mark Cavendish, 27e victoire d'étape sur les routes du Tour pour le bolide de l'île de Man.
Le bolide, le pitbull, le CAF, comme vous voulez. En tout cas, il a exulté évidemment sur la ligne d'arrivée. Mark Cavendish, 31 ans, serial winner, vainqueur en série, qui même sous le maillot de sa nouvelle équipe Dimension Data, la formation sud-africaine, vient décrocher les lauriers dès la première journée, dès la première étape de ce Tour de France 2016. Et bingo pour lui qui décroche son premier maillot jaune après 27 succès. Lui qui avait été champion du monde en 2011, parfaitement emmené par ses équipiers, même si les trains les plus impressionnants dans ce final d'étape ont été ceux de Lotto Soudal et d'Etix Quickstep. Cavendish qui sort de la boîte et qui devance sur la ligne d'arrivée, les deux bras levés à l'équerre. Marcel Kittel l'allemand, Peter Sagan le champion du monde slovaque est 3ème, 4ème Greipel, 5ème le hollandais Tuns, 6ème le français, jeune français Christophe Laporte de la formation Cofidis, et 7ème un autre tricolore, Brian Coquard, Mark Cavendish qui va monter sur le podium pour endosser le maillot jaune, le maillot vert du classement par points bien sûr, et pour aller recueillir les lauriers de la victoire d'étape. Nul doute qu'il ne se lasse pas de ces cérémonies. Cyril Guimard, le garçon qui s'est imposé aujourd'hui, est le sprinter type, très rablé, très sanguin, un vrai bulldog. Ce coureur vous a toujours plu, Cyril?
Ben, c'est un sprinter qui m'a toujours énormément impressionné, qui me plaît énormément. L'homme un peu moins, dirons-nous. Hein. On va rester quand même fidèle.
C'est un roquet. Hein.
Ne pas oublier quand même certains épisodes de son parcours. Mais aujourd'hui, il a fait le sprint parfait. Vous savez, la classe, ça ne disparaît pas. Alors, on le sentait un peu moins motivé depuis quelques temps, hein, peut-être même un petit peu en dehors des choses de la route. Il avait dans sa tête, et il a toujours dans sa tête, et je pense pas que cette victoire le fera changer d'avis, il a les Jeux Olympiques sur piste qu'il veut absolument réussir. Et cette victoire est un bon présage, d'ailleurs, pour lui. Et puis, on parlait cet après-midi pour ou contre le prologue. Eh bien, étant donné qu'il n'y avait pas de prologue, vainqueur de la première étape, à l'image de Darriad il y a une cinquantaine d'années, tu gagnes la première étape et t'as le maillot jaune. Et il va enfin porter le maillot jaune, et je crois que c'est quand même quelque part un peu une justice.
Exactement, Mark Cavendish, vainqueur d'étape et premier maillot jaune de ce Tour de France, il s'impose devant Marcel Kittel, Peter Sagan, André Greipel, le premier français, c'est Christophe Laporte, l'un des poissons pilotes habituels de Nasser Bouhanni, qui se classe 6ème, juste devant Brian Coquard. Alexander Christophe prend la 8ème place, Warren Barguil tient à sprinter, puisqu'il termine 13ème, juste devant Julian Alaphilippe. Je ne sais pas s'ils ont véritablement sprinté, mais en tous les cas, ils étaient à l'avant du peloton. On va évidemment détailler les classements et revenir sur tout ce qui s'est passé sur la première étape de ce Tour de France, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h. L'intégral Tour, Mark Cavendish, le CAV s'impose ici à Utah Beach. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour en direct de Utah Beach, terme de cette première étape du Tour de France, et c'est un Anglais qui a débarqué le premier sur les plages d'Utah Beach, un Anglais nommé Mark Cavendish. Évidemment, c'est quasiment régional de l'étape, puisque Mark Cavendish est originaire de l'île de Man, qui se trouve entre l'Angleterre et nous, Fred, et que comme le rappelait Jérôme Pinault, c'est l'île de Wight, pardon, je confonds avec l'île de Wight. L'île de Man, c'est beaucoup plus au nord.
Elle est au nord-ouest de l'Angleterre.
Exactement,
l'île de Man, ouais.
c'est l'île de Wight, effectivement, qui est entre l'Angleterre et la France. Mark Cavendish qui s'impose donc ici au terme de cette première étape et qui vraiment a impressionné tout son monde en battant tous ces jeunes rivaux qui vont devoir compter une nouvelle fois avec le CAV.
Oui, on avait vu l'approche de ce sprint, deux équipes qui faisaient figure d'épouvantail, les Etix Quickstep pour Marcel Kittel, les Lotto Soudal pour André Greipel. C'est vrai que c'était les deux grandissimes favoris, Greipel, Kittel, avec peut-être un outsider nommé Alexander Christophe, et finalement Mark Cavendish qui, toujours en deuxième rideau dans les 10 derniers kilomètres, a très très bien été emmené par son équipe.
Pierre-Yves Leroux est à côté de l'un des meilleurs français du jour, Brian Coquard, le sprinter de la formation Direct Energy.
Exactement, Brian Coquard qui vient d'arriver après le passage de la ligne.
Après ce sprint, une déception ou vous attendiez à ce sprint?
Non, forcément déçu. J'ai perdu Adrien Angelo à 5 km de l'arrivée dans une chute. Ensuite, j'ai pas paniqué. C'est un peu la différence des années précédentes où j'avais tendance à paniquer. Là, j'ai pas paniqué et j'ai retrouvé Yo-Yo et Sylvain. Yo-Yo a vraiment fait un super boulot. Il m'a super bien replacé jusqu'à la borne. À la borne, à l'endroit où j'étais, je me suis dit que c'était jouable, encore même tout seul, en étant un peu marlou. Et du coup, j'étais dans la roue à Greipel et la vague qui arrivait de la gauche nous a un peu tassé. Du coup, on était en perte de vitesse, on pouvait vraiment pas se relancer. Et du coup, le sprint était lancé. Nous, on était en reprise de vitesse pour lancer son sprint. Du coup, une la mauvaise vague, mais bon, bah écoutez, je sais pas s'ils ont, je crois qu'ils ont pas grand chose, ils ont pas trop de mal, Angelo a pas trop de mal, c'est c'est les risques du métier, c'est forcément une déception, mais bon, on est, voilà, il va y avoir deux sprints et puis, puis on était, malgré tout, on était dans le jeu. Hein.
Vous avez vu peut-être la chute d'Alberto Contador. On sait que c'est une étape qui a été compliquée par le vent. On a vu cette chute dans le peloton. Est-ce que vous avez vu Alberto en difficulté?
Ouais, j'ai vu la chute un îlot central à la sortie d'un virage. Mais bon, voilà, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ah,
vous l'avez vu revenir dans le peloton peut-être? Est-ce que ça,
ouais, vous savez, je fais pas trop attention. Je fais pas trop attention au leader. C'est à cause de choses comme ça qu'il y a des chutes quand on n'est pas concentré. Non, j'étais vraiment concentré. Toute l'équipe était concentrée. Ben voilà, une première étape. On sait que c'est très nerveux. Il faut faire attention aux chutes. Il y a beaucoup de pièges sur la route. Et du coup, il faut être concentré à 200% malgré tout. Malgré la concentration, des fois, il y a des chutes. Mais c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas trop à regarder qui tombe ou quoi. L'important, c'est de ne pas chuter.
Ryan, c'est Mark Cavendish qui gagne. Est-ce que vous y attendiez?
Bon, j'avais cité dans les favoris. Je m'attendais à lui. Pas forcément que lui, non, mais si, je l'avais mis dans les favoris et bah, c'est un beau vainqueur. Quand on voit le podium, c'est un très beau podium. Voilà, ce qu'il faut pas. On était dans le jeu, maintenant ça marche pas. C'est forcément une déception, mais bon, faut rebondir. C'est une déception, c'est pas comme si je m'étais cassé la clavicule ou quoi. C'est une mauvaise vague, un peu. Pas trop de chance, le mauvais timing, mais bon, voilà, on a tout le Tour de France pour retrouver le bon timing. Et puis bon, j'en étais un peu esselé avec la chute à 5 km.
Merci beaucoup, Brian Coquard, donc, qui répond aux questions. Il y a un petit peu de déception, évidemment, chez le leader de l'équipe directe Énergie. Et on va se diriger désormais vers la cérémonie protocolaire pour entendre le cave et son fabuleux accent, évidemment.
Ah oui, ça, il va se faire un plaisir, Fred, de traduire le cave. À moins que Jérôme maîtrise le Cavendish. Il parle un petit peu français quand même, Mark Cavendish?
Avec moi, oui.
Avec toi, oui, mais pas avec les journalistes.
Hein. Pas trop, non.
Un peu comme Bradley Wiggins.
C'est compliqué. J'avoue que son accent de l'île de Man, les premières semaines que j'ai passées avec lui, j'ai passé une saison complète en chambre avec lui. Au début, je lui disais, oh, tranquille, parce que l'anglais, c'est pas facile pour moi, et encore moins avec ton accent.
un mot sur Brian Coquard qu'on vient d'écouter, Jérôme. On rappelle, hein, c'est un peu ton petit protégé dans ce peloton du Tour de France. Il fait 7e aujourd'hui. De la déception, évidemment, un peu tassé. Il le rappelait il y a quelques instants par la vague venue de la gauche à quelques encablures de l'arrivée. Bon, 7e pour ce premier sprint cette année.
Ouais, c'est un vainqueur, Brian est un gagnant, il hait la défaite, donc c'est normal qu'il soit un petit peu déçu. On a établi, lui et ses directeurs sportifs, mais aussi avec moi, un plan sur ce tour. Aujourd'hui, il était, la victoire d'étape n'était pas, c'est pas qu'elle n'était pas envisageable, mais on n'avait pas mis ça dans nos plans. On va plutôt regarder pour Brian dès demain, et puis il y aura des sprints plutôt faux plat montant vers Limoges. Ça n'était pas la priorité aujourd'hui. Néanmoins, il a fait le sprint jusqu'au bout pour prendre, pour pas prendre de cassure, et puis surtout prendre une place de 7e, parce que demain est un autre jour, et demain il va peut-être y avoir des gros changements encore au classement général.
Mark Cavendish, Fred, qui monte à l'instant sur le podium pour recevoir le premier maillot jaune de sa carrière. Ça fait quelque chose quand même, hein, dans une carrière de coureur cycliste.
Il aura attendu sa 10e participation au Tour de France. Mark Cavendish, 31 ans, vainqueur désormais de 27 étapes sur la grande boucle. Rendez-vous compte, il revient à une longueur de Bernard Hinault, vainqueur de 28 étapes. On a quand même rarement vu Mark Cavendish
aussi souriant,
aussi heureux, ouais. La banane, tout de jaune vêtu, Mark Cavendish, qui avait l'air très décontracté dans les 48 heures précédant le Tour de France. Moi qui avais l'habitude de le voir plutôt hargneux, plutôt révolté permanent, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce Cavendish 2016, qui a l'air de prendre un peu tout à la légère. Est-ce qu'il sera assez mobilisé? Eh bien, la réponse, il l'a apporté sur la route, Jérôme.
Oui, bien sûr, il est très très content, et ça se voit. Je l'ai vu beaucoup sourire, moi, en privé. C'est vrai que sur le vélo, et c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui est hargneux, il emploie beaucoup de gros mots, et j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone juste avant de venir, et il m'a envoyé un message, et dans le texte, je peux pas le dire à l'antenne, mais il m'a dit, je viens, je vais prendre ce fucking yellow jersey et après je vais à Rio. Il a rempli son contrat, maintenant il a un peu la tête au JO déjà, mais c'est une vraie belle performance, je suis très très heureux pour lui.
Comme quoi, on peut arriver à concilier la piste et la route. On sait qu'il est en pleine préparation, Cyril, pour les Jeux Olympiques, et tu me le disais tout à l'heure en antenne, finalement le travail spécifique de la piste va peut-être redonner un petit coup d'accélérateur.
C'est vrai parce que depuis 6 mois, on le voit participer aux Coupes du Monde sur piste. Jusqu'à maintenant, il était plutôt un petit peu dominé, mais il était en plein hiver, donc il n'était pas au sommet de sa condition physique. Il sait aujourd'hui qu'il va au jeu. Et c'est vrai que tout ce travail sur la piste, au même titre d'ailleurs que Brian Coquart, la piste redonne du jump, redonne de la vélocité, redonne de la qualité au démarrage et puis surtout de la finesse dans le coup de pédale lorsque vous êtes dans les abris.
Voilà, Mark Cavendish qui n'en finit plus de recevoir des bouquets, des maillots de toutes les couleurs. Après le jaune, voilà qu'il s'empare du maillot vert. Demain, il ne pourra pas tous les porter. Hein. Il sera obligé d'en remettre un autre peut-être à Marcel Kittel.
Oui, c'est Marcel Kittel, deuxième de l'étape du jour, on le rappelle, devant Sagan, troisième, qui portera le maillot vert demain avant l'arrivée très compliquée à Cherbourg. Mark Cavendish qui remporte sa 6e victoire de l'année 2016. Il s'était imposé sur le Tour du Qatar, au général du Qatar, en Croatie aussi, parce qu'avec son équipe sud-africaine Dimension Data, on va courir des courses exotiques. Une étape du Tour de Californie également. Et puis il a été sacré champion du monde sur piste en compagnie de Bradley Wiggins dans la discipline de l'américaine Mark Cavendish, qui effectivement mettra cap sur Rio. Et si c'était l'année Cavendish, lui que l'on annonçait en déclin, en tout cas au niveau du top niveau du sprint mondial.
Mark Cavendish, vainqueur de cette première étape du Tour de France, premier maillot jaune sur les routes du Tour 2016. On revient dans quelques instants pour parler des autres faits marquants de cette journée, avec notamment la chute d'Alberto Contador, la belle 6e place du meilleur français du jour, en l'occurrence Christophe Laporte, poisson pilote de Nasser Bouhanni, qui a peut-être du coup va peut-être voir ses ambitions à la hausse sur les routes de ce Tour de France. Et puis on parlera des autres maillots. On est ensemble jusqu'à 18h, on a encore le temps, une petite demi-heure à passer encore pour évoquer la première étape de ce Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerises blanches du Normandie.
Bah voilà, on va chanter, messieurs. Made in Normandie, Stone et Chardin. Oh, ça va pas nous rajeunir, tout ça, mon bon monsieur. C'était la grande époque de Cyril Guimard qui a chanté ça dans les booms auxquels il participait à l'époque, hein, dans les années 70.
Hein, Cyril. Bon, je ne suis pratiquement jamais allé au boom. J'étais coureur cycliste, donc je préparais la course du dimanche. Et donc, c'est pas le samedi que j'allais faire le piste sur les pistes de danse, voyons.
Pas ici.
Ou alors uniquement le slow. Hein.
Ouais. Et puis, la saison ne dure quand même pas toute l'année, il reste une toute petite
oui, mais c'est partie. L'hiver qu'on prépare les saisons.
Ah oui, eh oui. Made in Normandie, Made in Hildeman, donc pour Mark Cavendish qui a remporté la première étape de ce Tour de France. Mark Cavendish qui est en train de répondre à nos amis du Tour de France. On l'écoutera évidemment tout à l'heure. Le CAV hein, qui remporte cette étape. On va rappeler le classement, Fred.
Victoire ici à Utah Beach au terme de cette première étape du Tour 2016 du Britannique de Hildeman. Mark Cavendish, 31 ans, qui remporte pour cette étape inaugurale du 103e Tour de France, sa 27e étape, on n'arrive même pas à le dire, tellement c'est beaucoup, c'est impressionnant. 27 étapes pour le sprinteur de poche, le sprinteur Rabelais, le sprinteur sanguin, teigneux, hargneux, et qui s'est imposé donc ici sur l'une des plages du débarquement de juin 44 devant Kittel et Sagan.
This race means everything to me, you know, and I've got my little family here now to do it with me, and maybe you'll do it one day, eh, Fred?
Hey, il est en train d'embrasser ses enfants, il est en train de leur dire peut-être que toi aussi, mon petit, tu feras le Tour de France.
Thank you very much.
Un petit cab, tout petit.
He likes eating things like that, you know.
Il aime le micro, le petit Cavendish. En tout cas, son papa prend vraiment bien la lumière, et encore plus avec le maillot jaune sur le dos. Victoire donc du CAF qui remerciait son équipe également peu avant que l'on l'entende, entendre sur ses ondes. Sa nouvelle équipe de Mansion Data qui a vraiment tiré le gros lot en débauchant Cavendish de la formation belge Ethics Quickstep. Patrick Lefebvre avait décidé que Cavendish était sur la pente descendante. Il avait préféré mettre son budget sur Marcel Kittel, le sprinter allemand qu'il avait pris à Giant Alpecin. Kittel est arrivé chez Ethics Quickstep. Kittel, ici à Utah Beach, fait deux derrière Cavendish. C'est effectivement un drôle de clin d'œil que l'histoire fait à Lefebvre, mais la roue tourne et qui plus est dans le cyclisme. Victoire donc du Britannique devant Kittel, Sagan, Greipel, le Belge Teuns et les deux Français Christophe Laporte et Brian Coquard respectivement 6e et 7e. 27e victoire d'étape pour Cavendish qui va pouvoir effectivement se concentrer sur Rio et la piste. Mais avant cela, demain, il savourera une journée en jaune, la première de sa longue carrière, lui l'ancien champion du monde.
Cyril, il y en a un qui doit quand même faire un peu la grise mine ce soir, c'est Patrick Lefebvre, l'ancien patron de Mark Cavendish qu'il a laissé partir en recrutant un sprinter beaucoup plus jeune, en l'occurrence Marcel Kittel. Et bien le nouveau champion de Lefebvre s'est fait taper par celui qui a été chez lui pendant de longues saisons, enfin pas très longtemps, mais quelques saisons.
Oui, maintenant est-ce que c'est Cavendish qui a été mis dehors ou Cavendish qui a eu envie de changer d'air? On n'a peut-être pas exactement la version réelle des faits, mais le choix de Kittel n'est quand même pas un mauvais choix pour l'équipe Ethics. Il a quand même déjà remporté quelques belles épreuves depuis le début de l'année, puis il aura l'occasion éventuellement de se repositionner sur ce Tour de France. Il lui reste encore quelques étapes, mais il est vrai que c'est un clin d'œil à l'histoire et que c'est toujours amusant de regarder comment les choses évoluent.
Alors Fred le rappelait, les Français se sont très bien comportés dans ce sprint. On a entendu tout à l'heure Brian Coquard qui termine 7e, et puis la surprise, enfin est-ce que c'est vraiment une surprise, la 6e place, le meilleur Français du jour, c'est donc ce garçon de la formation Cofidis nommé Christophe Laporte, qui habituellement est dans l'ombre, Cyril, dans l'ombre de Nasser Bouhanni qui est son leader et dont il est le poisson pilote.
Oui, c'est pas étonnant de le trouver là. Pour l'instant, il était totalement au service de Nasser Bouhanni. Moi, j'ai toujours dit que ce coureur n'était pas à sa place et qu'il a sa carte à jouer. Et on l'avait dit d'ailleurs un petit avant le départ de ce tour, c'est peut-être le tour de Laporte qui va lui permettre peut-être de s'émanciper, parce que je crois qu'il a un potentiel qui doit lui permettre de jouer les premiers rôles dans le cyclisme international.
Oui, parce que aujourd'hui il était un peu esselé, il n'y a pas grand monde qui a travaillé pour lui dans le sprint.
Il s'est trouvé un peu dans la même position que Coquard. Les Français n'ont pas véritablement de train pour les emmener, même si ça fonctionne à peu près bien lorsque Nasser est là, tout du moins à un niveau en dessous de celui du Tour de France. Alors c'est vrai que les équipiers de Laporte étaient peut-être un petit peu démobilisés. Je crois qu'avec la performance qu'il a réalisée aujourd'hui, peut-être l'équipe va se remobiliser pour lui permettre d'arriver dans les meilleures conditions dans le sprint, car pour moi c'est quelqu'un qui est capable de gagner des grands sprints. On l'a vu d'ailleurs dans plusieurs épreuves quand il emmenait le sprint à Bouhanni, à part qu'il se relevait, mais il arrivait quelquefois à rester quand même dans le top 5.
Et oui, donc c'est un garçon.
C'est un super, et à mon avis, il n'est pas fait pour rester équipier très longtemps.
Eh oui, il y en a certains comme ça qui sont équipiers, mais qui un jour prennent des envies de devenir leader, et ça pourrait être le cas.
C'est pas prendre des envies, il y a une réalité sur le terrain. Quand vous êtes capable d'emmener Bouhanni comme il l'emmène, ça veut dire que vous êtes aussi capable de faire votre propre course, et il l'a démontré aujourd'hui, et en étant encore seul.
La question maintenant, ça va être, est-ce que Christophe Laporte a les épaules pour endosser un rôle de leader, un rôle de gagnant, parce qu'il y a des caractéristiques chez chaque coureur, et certains cyclistes se contentent davantage du second rôle. Il n'a pas le même physique que les sprinteurs purs quand même, Christophe Laporte. Alors bien sûr, il n'a que 23 ans, c'est un Varois qui a été formé à Hyères, puis à Aix-en-Provence, avant de passer par la Pomme, puis
Cofidis, 23 ans seulement.
Il 23 ans, non mais c'est 23
ça
ans.
Ça rajoute de l'eau à ton moulin, c'est
oui,
ça que
oui,
t'es en train
tout
de
à
dire.
Fait. À 23 ans, on peut rester, on peut jouer le rôle d'équipier, ça donne de l'expérience,
ça a
donne
du sens, bien sûr.
Mais je suis désolé, à 25 ans, je pense pas que, ou alors il n'a pas de personnalité, il n'a pas de charisme, mais je pense que à 25 ans, il doit pouvoir faire les sprints pour lui.
Alors qu'une cérémonie est en train de se préparer, Fred, oui. Avec quatre coureurs qui vont aller s'incliner devant le monument en hommage aux soldats américains.
Il y en a plus de quatre. Il y a Cavendish, maillot jaune, Greipel, le champion d'Allemagne, Arthur Vichot, le champion de France, John Degenkolb, Greg Van Avermaet, Lilian Calmejan, le jeune coureur de Direct Energy, et un Américain, bien sûr, en la personne de TJ Van Garderen. Évidemment, des roses blanches vont être déposées sur l'un des mémoriaux qui orne toutes ces plages du débarquement de juin 1944. C'est une séquence émotion après l'émotion sportive, l'émotion historique et le souvenir avec un Cavendish qui se plie de bonne grâce effectivement à cette cérémonie protocolaire. On a là Stephen Cummings, le Britannique, également coéquipier de Cavendish chez Diamond Shandata. Ils ont réuni du monde, les organisateurs du Tour de France, pour rendre cette cérémonie la plus complète et la plus émouvante possible. En tout cas, le cadre de cette étape inaugurale du Tour 2016 est somptueux, vu sur la mer, dégagé avec des drapeaux canadiens, allemands, français, britanniques et américains, bien sûr, qui flottent au vent, un vent qui aura animé la course. Mais rappelons tout de même le gros fait du jour qu'on n'a pas évoqué depuis la victoire de Cavendish, c'est la chute, grosse chute, importante chute peut-être pour la suite des opérations au niveau du classement général, celle d'Alberto Contador, le double ou triple, c'est selon que l'on compte ou non son déclassement en 2010, double vainqueur du Tour officiellement, Alberto Contador qui est allé tâter du bitume violemment, salement amoché, Alberto Contador, le leader de la formation Tinkoff, qui a dû être bandé, pansé, il a passé de longues minutes à la voiture médicale et il est vite monté dans son bus, dans son Pullman Tinkoff. Je peux vous dire que c'est le bus le plus assiégé ici en face de Utah Beach. On attend des nouvelles médicales de Contador qui, selon toute vraisemblance, devrait aller passer des radios de contrôle. Les coureurs conviés par les organisateurs du Tour montent sur le mémorial de Utah Beach avec en premier lieu le maillot jaune Cavendish, à ses côtés Van Garderen, Greipel, Vichot, Degenkolb, Van Avermaet, Stephen Cummings et le jeune Lilian Calmejan, ainsi que Thomas Vauclair. Vous voyez qu'il y a du beau monde pour observer une minute de silence en hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie en juin 1944 et tout au long de cette Seconde Guerre mondiale.
Utah Beach, donc l'une des cinq plages du débarquement du 6 juin 1944, une opération militaire qui avait été particulièrement réussie par les alliés, par les soldats américains, et une bataille qui avait coûté beaucoup moins de victimes que celle d'Omaha Beach, à Omaha la Sanglante, à quelques kilomètres d'ici. Tous ces coureurs descendants, évidemment, de garçons qui ont sans doute disputé, enfin qui ont sans doute livré la Deuxième Guerre mondiale, qui se recueillent à l'instant même devant le mémorial de Utah Beach. On évoque donc Alberto Contador, évidemment c'est le fait du jour, Cyril, Alberto Contador dont on parlait il y a quelques instants, Fred, qui va évidemment, qui a laissé quelques illusions ainsi que quelques morceaux de peau sur la route du Tour aujourd'hui, après seulement 100 km disputés. Est-ce que les illusions de remporter le Tour de France se sont envolées aujourd'hui pour Alberto Contador, ou il est encore un peu trop tôt pour le dire?
C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Il va y avoir un certain nombre d'investigations, mais de toute façon, ça ne peut pas être un avantage. Ça ne peut pas être un élément qui va faire qu'il sera plus fort dans les jours à venir ou dans les deux semaines à venir. Mais c'est ça le Tour de France, hein. Régulièrement, vous avez un certain nombre de favoris au départ, et puis, il y en a qui quittent le Tour prématurément sur chute ou sur maladie. Aujourd'hui, Contador n'a pas quitté le Tour, heureusement, mais il est la première victime, enfin la première vraie victime parmi les favoris, parmi les outsiders, parmi tous ceux qui sont arrivés sur ce Tour de France avec des ambitions. Il est la première victime de ce Tour de France.
Et oui, on se relève difficilement d'une telle chute parce qu'il est quand même
sérieusement amoché notre ami Alberto Fred, hein, tu le rappelais tout à l'heure, l'épaule droite bien amochée au niveau de du cuissard sur le côté droit, hein, c'est tout le côté droit qui a morflé dans cette chute tout à l'heure.
Oui.
Et même si évidemment il a pu reprendre la route, il y a rien de cassé a priori, même si il y aura sans doute des radios de contrôle effectuées dans quelques minutes dans l'un des hôpitaux les plus proches du lieu d'arrivée, ici même peut-être. Ben oui, évidemment.
Oui, il y a une unité mobile
qui permet dans un premier temps de faire un premier diagnostic et éventuellement s'il y a des suspicions d'aller effectivement sur
à l'hôpital le plus proche.
Alors s'il n'y a que du vernis, on met combien de temps à récupérer? Est-ce qu'il aura récupéré pour le week-end prochain?
4 jours. Il faut 4 jours, 4 à 5 jours.
Ouais. Alors le week-end prochain ce sera les Pyrénées. Il y a quand même le Lyon avant, dès mercredi.
Oui, la course par élimination a commencé. C'est une des questions que l'on posait hier à Romain Bardet à la permanence de Saint-Lô. Est-ce que ce tour aussi compliqué et exigeant qu'annoncé ne sera finalement pas un tour par élimination, parce qu'on peut perdre le Tour de France quasiment chaque jour?
On va retourner derrière la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux et la HF qui voit arriver, je crois, l'un des héros du jour, en l'occurrence Anthony Delaplace, le Normand, le régional de l'étape qui est puisé, combatif de l'étape aujourd'hui, Pierre-Yves.
Exactement, on l'écoute, Anthony Delaplace.
Partout et non, je remercie les gens, c'était franchement, c'est des moments qu'on vit pas souvent dans une carrière et j'ai pris énormément de plaisir, même si l'échappée n'a pas été au bout, mais on savait très bien qu'il y avait le maillot jaune en jeu et puis l'étape, donc je savais que ça avait très peu de chances d'aller à son terme, cette échappée.
J'ai vu ce matin au briefing que vous échappiez.
Ouais, c'est sûr, c'était prévu. Après, j'ai eu une petite frayeur parce que je suis parti avec 100 mètres de retard sur les trois et les bourras avaient prévu leur coup. On est resté 40 km en chasse-patate avec le Cannondale et je me suis dit, oula, je rentre jamais devant et puis on s'est jamais démoralisé. Après, voilà, bon, c'est le maillot à poids. Ouais, c'est mon regret vu qu'on a mis du temps à rentrer. Bon, c'était le jeu de bourras aussi, ils étaient deux devant et c'est comme ça. Mais bon, après, voilà, j'ai ma petite récompense, j'ai le plus combatif. C'est toujours important de monter sur le podium sur mes terres, ça fait plaisir.
Et les applaudissements, parce que lors de la cérémonie protocolaire, vous avez été celui qui a été le plus applaudi ici, vous avez vraiment des supporters.
Ah ouais, bah ça fait plaisir. Ouais, non, c'est vrai que j'ai été applaudi. Je pense ça fait vraiment plaisir. Ouais.
Sur la route, on a le temps de savourer un petit peu ou l'effort est tellement difficile qu'on peut pas regarder à droite à gauche.
Oui, on a le temps de savourer, surtout qu'on était 5, donc c'était une échappée, ça allait, ça tournait bien, on avait le temps de récupérer à 5 coureurs, c'est pas comme si on est 2 ou 3. Et non, j'ai eu le temps de savourer, même si à la fin, les 30 derniers kilomètres, les jambes me brûlaient pas mal.
Cyril Guimard demandait juste si vous étiez capable de chanter Made in Normandie ou Je voulais revoir ma Normandie.
Ah ouais, non, je suis pas aussi bon que Thierry Marie.
Merci beaucoup, Anthony Delaplace. Donc, avec le grand sourire, évidemment, et qu'on verra peut-être demain. Non, il fait non de la tête. Non, ça sera plus compliqué, hein, ça, évidemment. L'effort a été costaud déjà aujourd'hui.
Ah oui, un long rallye aujourd'hui pour Anthony Delaplace.
C'est un beau clin d'œil à Thierry Marie.
Oui. Exactement. Le Normand, lui aussi, Thierry Marie, qui a couru chez toi.
Ah oui. Bah,
pratiquement
toute sa carrière, évidemment, Thierry Marie.
J'étais derrière.
Chez Système U et Castorama, évidemment, Thierry Marie, spécialiste des longs raids, capable de chanter en s'échappant. Oui, très rapidement. Juste une petite remarque. Il semble que qu'Anthony Delaplace ne connaisse pas le nom de son compagnon d'échappée qu'il a accompagné toute la journée. Il l'appelle le Cannondale. C'était l'Américain Alex Hawes.
C'est vous. Est-ce qu'il a déjà couru avec lui?
C'est pas sûr du tout. C'est vous dire comme ce monde est ingrat, ce peloton. C'est pas que des copains, ils se connaissent pas tous, ils font le même métier et ils doivent collaborer les uns avec les autres.
Est-ce que tu connais les 200 journalistes sportifs de France, Fred?
Wow, je sais pas. Bonne question.
Très bien.
Joker,
tu répondras tout à l'heure. Voilà, on va revenir dans quelques instants, toujours en direct de Utah Beach, au terme de cette première étape du Tour de France remportée, donc on vous le rappelle, par Mark Cavendish, 27e victoire hein, pour le CAV sur les routes du Tour, mais seulement premier maillot jaune. Et oui, demain, il disputera la deuxième étape de ce Tour de France avec le magnifique Yellow Jersey dont il rêvait. Il avait le grand sourire tout à l'heure lorsqu'il a revêtu ce beau maillot jaune de leader du Tour de France. A tout de suite, la route du Tour revient dans un instant.
RMC Intégral Tour,
Christophe Cessieux.
Les dernières minutes de l'intégral tour au terme de la première étape de ce Tour de France. Bicycle, chanté Queen. Et évidemment, le groupe anglais en hommage à Mark Cavendish qui, pour la première fois de sa carrière, a plus de quel âge est-il? 31 ans. 31 ans. Bon, c'est pas encore un ancêtre. Mais il a fallu attendre quelques années quand même, hein, Fred, pour qu'il revête ce beau maillot jaune de leader du tour.
10e participation au Tour de France pour Mark Cavendish, qui, c'est vrai, était un sprinter précoce, un champion précoce, parce qu'il est beaucoup plus qu'un simple sprinter. Lui qui a été champion du monde en 2011 à Copenhague, on s'en souvient, et qui a donc attendu sa 10e participation au Tour de France pour endosser le plus beau maillot du monde, peut-être en balance avec le maillot de champion du monde. Ça dépend des coureurs, de la sensibilité des coureurs. 27e victoire d'étape sur le Tour de France. Il avait commencé avec 4 succès en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 5 en 2011, 3 en 2012, 2 en 2013. À Harrogate, chez lui, à quelques encablures de la maison de sa grand-mère, il avait chuté dès la première étape du Tour 2014. L'an passé, il avait sauvé l'honneur à Fougères pour sa seule victoire d'étape sur le Tour 2015. Et là, il n'attend pas. Dès la première étape à Utah Beach, non loin de l'Angleterre, il décroche la palme et surtout le maillot jaune, lui qui devance sur la ligne Marcel Kittel et Peter Sagan.
Demain, donc, journée en jaune pour Mark Cavendish. Sera-t-il encore en jaune demain soir? Parce que c'est une arrivée différente demain à Cherbourg avec la côte de la Glacerie qui, paraît-il, est glaciale.
Elle est glaciale, elle est difficile.
Ou brûlante au choix.
Oui, non, ce sera difficile pour Cavendish de l'emporter car il y a des vrais spécialistes. On a pu voir aujourd'hui que Peter Sagan, qui est un spécialiste des arrivées telles que celles que nous aurons demain, qui ne s'est fait remonter que dans les 30 derniers mètres par Cavendish et Kittel. Et je pense que demain, Cavendish aura du mal à rester en jaune.
Très bien, ben nous suivrons ça, figurez-vous, puisque nous serons de retour demain après-midi entre 15h et 18h pour la deuxième étape de ce Tour de France qui conduira donc le peloton de Saint-Lô jusqu'à Cherbourg avec donc cette arrivée qui s'annonce particulièrement compliquée et particulièrement intéressante à suivre. L'intégral Tour qui sera donc de retour demain à 15h. En attendant de passer le relais à Pierre Dorian dans un instant, on va filer à Enghien pour y retrouver Laurent Guédard qui va nous récapituler tout ce qui s'est passé sur les courses aujourd'hui. Salut Laurent.
Salut Christophe. Le quintet de cet après-midi à Enghien a été remporté par le 3 Vanetta d'Azur, 2e le 11 Jaguar Brolin, 3e le 5 Perfect Power, 4e le 10 Va-et-Vient, 5e le 6 Hudson de Retz, 3, 11, 5, 10 et 6. Pas de gagnant pour le quintet dans l'ordre. Par contre, plus de 68 000 euros par internet. Demain, nous serons à Saint-Cloud pour une très belle réunion avec notamment le Grand Prix de Saint-Cloud. C'est un groupe 1 et c'est la 3e étape des Epic Series. Le quintet, quant à lui, est programmé dans la 4e course. 1600 mètres à parcourir sur une piste très rapide. Ils sont 18 au départ et je vous propose tout d'abord le 10 Bandanetta, une pouliche confirmée à ce niveau et qui adore cette piste de Saint-Cloud. Et je me méfie également du 6 Follet qui vient de gagner dans un bon style une course à réclamer et qui peut monter de catégorie avec réussite. Et je vous rappelle que d'autres informations, mais également des paris, sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Eh bien, il est grand temps maintenant de reparler de foot. Hein. Rassurez-vous, la petite parenthèse cycliste s'achève ce soir. Elle reviendra demain. Pierrot, tu nous laisses une petite place quand même.
Tous les jours, hein, 15h, l'intégral Tour de France pendant le mois de juillet. Enfin, pendant ces trois semaines, bien entendu. C'est Mark Cavendish, donc le premier maillot jaune. Mais là, c'est sûr qu'il y a un gros morceau ce soir. Tu peux pas rivaliser avec tous les Cavendish du monde contre un Allemagne-Italie en quart de finale de l'Euro. La Dream Team est là. Éric Dimeco, Julien Cazard, Emmanuel Petit et Coach Courbis. On a plein d'infos sur la compo de Didier Deschamps pour France-Islande demain. À tout de suite.